Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 5 mai. Déjà
bonjour.
Le mois de mai.
Michel. Bonjour, Yvan.
Magnifique. Ben, je suis en compagnie de mes fidèles compagnons et compagnes, Yvan Deslauriers et André Étienne.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Est-ce que vous avez envie d'entendre parler de voyage, de nature, de science?
Toujours.
Alors, on est là pour ça.
Ah, c'est ça les sujets cette semaine.
Cette semaine,
c'est
les sujets
nouveau,
de la semaine.
C'est nouveau, ça vient de sortir.
Oui, oui, tout à fait. Alors, André?
Oui, alors moi, je vais vous parler, puisque il fait chaud, on va commencer à penser à se promener dans la nature. Je vais vous parler de la maladie de Lyme. Et c'est un article de ici Radio-Canada, dans source Internet. Et puis, en deuxième partie, d'un itinéraire qui est vendu par les enfants. Ah. Je ne vous donne pas plus d'informations.
C'est bien, il faut
rester. Je tease, comme dirait Jean-Sébastien.
Et Yvan?
Et dans mon cas, je vais d'abord lire un article qui fait le compte-rendu du plan de développement durable de la collectivité de Montréal pour la période 2010-2015. Puis après ça, évidemment, ben j'ai succombé à mes vices.
Ah,
alors,
bon.
Je vous parle de vélo.
On adore ça.
En France, avec de la bouffe.
Yes, yes.
Et toi, Michel, qu'est-ce que tu nous parles?
De mon côté, je vous... indiquer comment on peut mettre ses neurones au repos. C'est une bonne chose à faire pendant que vous nous écoutez. Mettez
vraiment?
Vos neurones au repos. Ben, non, pas pour vous endormir quand même. Et je vous emmène à un endroit très spécial, l'extrême sud, qui s'appelle Punta Arenas.
OK, c'est plus loin que Longueuil, là.
Restez avec nous pour en savoir plus. Alors, mettre ses neurones au repos, c'est Fanny Bourrel qui nous en parle dans le journal Métro du 11 février. Quand on a la tête trop pleine et quand on n'est plus fonctionnel, ben, c'est prouvé, on a besoin d'une pause mentale et, pour recharger ses batteries cérébrales. Alors, les difficultés à se concentrer, à faire preuve de créativité, oubli, stress, ben, ces symptômes peuvent résulter d'une congestion mentale.
Congestion mentale. Oui. C'est beau, ça.
C'est comme vos muscles. Votre cerveau peut fonctionner de manière performante pendant des heures, mais il faut lui accorder des temps de repos.
OK.
Les pauses ravitaillent le stock d'attention et de motivation du cerveau aussi. Et ça encourage la productivité ainsi que la créativité.
On devrait en parler au patron d'entreprise,
là, je trouve. Oui, ben, tout
serait,
à fait.
Ce serait une bonne
idée,
ils
en ont besoin. Ils l'oublient trop souvent. Et c'est des choses qui sont essentielles pour atteindre nos plus hauts niveaux de performance ainsi que pour avoir une mémoire fiable au quotidien. D'ailleurs, il y a tu parlais de patron, il y a des endroits où on donne du temps aux employés pour avoir une période de repos.
Et je crois que
c'est comme une évidence, sans faire de sieste.
C'est une évidence.
Juste relaxer, sans faire de sieste.
Why your brain needs more downtime.
Downtime.
Pourquoi votre cerveau a besoin de...
D'une pause.
De repos, d'une pause, c'est ça, ouais. Exactement. C'est publié sur le site du magazine Scientific American. Car le cerveau est loin d'être inactif quand il est au repos. Au contraire, il en profite pour... consolider des données récemment accumulées, mémoriser des informations essentielles et répéter et graver les compétences récemment acquises.
Alors, si j'ai des oublis, c'est parce que ce n'est pas des informations essentielles. Il faudrait que j'en parle à quelqu'un.
C'est parce que tu n'as pas pris de repos.
Ah, peut-être aussi.
Comment on peut faire pour reposer son cerveau en gagnant en efficacité? Il y a différents moyens qui sont simples, qui sont tout à fait à notre portée, mais qu'on oublie trop souvent de faire. D'abord, rêvasser. Des chercheurs de l'Université de Californie du Sud, donc c'est très sérieux, ont montré dans l'étude « Rest is not idleness ». Se reposer, c'est pas être complètement inactif. Mm-hmm. C'est rêvasser, pour eux autres, ils ont dit « rêvasser, c'est essentiel pour bien apprendre, résoudre des problèmes et aussi se fixer des objectifs mm-hmm. ». C'est d'ailleurs souvent en prenant sa douche et non nécessairement assis à son bureau que les meilleures idées surgissent.
Oui. Je suis absolument d'accord avec ça.
C'est vrai, hein?
Alors, on dit quelquefois que je m'évanouis sous la douche, mais je pense.
Ah oui, absolument, c'est vrai. Et une autre chose, s'accorder des pauses nature.
Des pauses nature?
Oui. Déposer la nature, tout à fait.
Comme aller
à bicyclette, par exemple. Passer du temps dehors, c'est une bonne façon de lutter contre la fatigue mentale. Un psychologue de l'Université de Caroline du Sud, des citations très sérieuses, évidemment, mm-hmm. a constaté lors de ses recherches que l'agitation de la ville met notre attention à l'épreuve. On a simplement pensé conduire sa voiture, par exemple.
Traverser une rue.
Alors qu'un environnement naturel nous régénère. Alors, faites des pauses dans la journée pour aller marcher dans un parc au bord de l'eau pour retrouver une meilleure efficacité au travail. C'est le temps de rêvasser dans la nature. Autre chose, faire des siestes de 10 minutes.
Bon.
D'accord avec ça. J'en fais une, d'accord?
Mais pas pendant l'émission, s'il vous plaît. Les siestes permettent d'aiguiser la concentration et d'améliorer la performance. Des chercheurs de l'Université Flinders en Australie, j'ai toutes des citations sérieuses ce matin, hein? Mm-hmm. Ils ont comparé les effets de siestes de différentes durées. Si une sieste de 5 minutes est trop courte, on peut s'en douter, hein, pour obtenir un meilleur niveau de vigilance, une sieste de 10 minutes, en revanche, est idéale pour voir ses performances s'améliorer. Et sans que le réveil provoque un roupillon prolongé. Parce qu'on nous dit d'ailleurs que ne jamais dépasser 30 minutes. Parce que ça va affecter le sommeil de la nuit.
Oui, je peux vous en parler de ça, si vous voulez.
Mais 10 minutes, c'est très bien. Prendre des jours de congé.
Oh oui!
Prendre des jours de congé, on est d'accord. Hein? Une étude hollandaise, une autre, qui a été réalisée en 1996, a montré que les bienfaits des vacances d'une durée de 7 à 9 jours se dissipaient aussi vite que ceux des vacances de 4 à 5 jours. Donc, la conclusion est claire. Plutôt que de prendre tous vos congés d'un coup, il est bon de les éparpiller au cours de l'année. Des longs week-ends, par exemple, seront plus bénéfiques que de longues vacances une ou deux fois par année.
Pas d'accord avec
ça. À moins qu'on soit complètement épuisé, bien sûr. Ah, mais c'est scientifique, écoutez,
l'Université
de Flinders, je vous l'ai cité.
C'est une question de budget, là, qui est d'accord.
Non, c'est pas seulement ça, d'ailleurs.
Ne discutez pas mes recherches scientifiques, s'il vous plaît. Aussi, méditer en pleine conscience. La méditation en pleine conscience, est-ce que vous connaissez? C'est un genre de méditation qui n'est pas celle que l'on pratique assis des heures en position de lotus, par exemple. Mais ça consiste plutôt à centrer son attention sur le moment présent, particulièrement sur la respiration. Elle améliorait la mémoire, la capacité de se concentrer. Et la clé de la réussite, c'est une pratique régulière, quotidienne même. Entre 10 et 20 minutes de méditation par jour permettent d'affûter son esprit et de se reposer les méninges. Donc, rêvassez, accordez-vous des pauses nature, faites de courtes siestes, prenez des journées de congé, André est pleinement d'accord. Alors, c'était mettre ses neurones au repos. C'était par Fanny Bourrel dans le journal Métro du 11 février.
Alors, je ne prends pas de repos puisque je vais vous parler de la maladie de Lyme. Et c'est très sérieux parce que c'est une maladie qui est maintenant présente dans plus de 65 pays. Et elle est due à une tique à pattes noires et à une souris blanche. Alors, on va suivre la trace. D'abord, il faut savoir, moi j'étais complètement ahurie, c'est une vieille compagne de l'humanité. Et maintenant, donc, il y a 5300 ans, l'homme de glace souffrait de la maladie de Lyme, donc il avait été contaminé. Moi, j'étais ahurie quand j'ai lu ça.
Oui, j'étais étonnée.
Voilà, parce que c'est quand même juste en 1977, chez les habitants de la ville de Lyme, donc ça explique pourquoi elle s'appelle comme ça, au Connecticut, que la maladie a été repérée. Et depuis le temps, évidemment, elle émigre un petit peu partout. Elle progresse à la vitesse de l'invasion d'une petite souris, à première vue inoffensive, qui vient du sud, et une tique à pattes noires. Alors, c'est Virginie Millienne, qui est biologiste, qui s'intéresse à cette souris depuis des années. Et elle dit que c'est intéressant parce que cet animal s'avère un très bon indicateur du réchauffement climatique. Plus le climat se réchauffe, plus son territoire s'agrandit vers le nord. Actuellement, elle progresse de 10 km par année. Elle ne vient pas seule. Une petite tique à pattes noires la parasite souvent. Cette tique, elle est très petite et elle ne vit que pour se gorger de sang trois fois dans sa vie qui dure 2 ans. Chaque repas lui permet de passer d'un stade de développement à un autre. Alors, à l'état de larve, la tique est minuscule. Elle se déplace peu, elle grimpe sur des petits brins d'herbe, et là, elle attend qu'un animal la frôle. Aussitôt, elle s'y agrippe, elle se prépare à prendre son repas. ses cibles privilégiées, les oiseaux ou des souris. La tique qui se nourrit sur une souris infectée s'infecte donc à son tour. Et une tique infectée est en mesure de donner la bactérie à tous ceux qu'elle piquera dans sa vie. Donc il suffit de la présence d'une souris infectée et d'une tique pour que le bal des infections commence. Et ça se passe dans le sud du Québec qui comprend la grande région de Montréal. Alors la tique, elle attend tranquillement sur son brin d'herbe et elle ne fait pas la fine bouche. Si un humain la frôle, elle s'y accroche. Et cette tique est infectée, alors la Borrelia, donc la bactérie, se retrouvera dans un nouvel hôte qui aura la maladie de Lyme. En 2012, dans le sud du Québec, environ 10% des tiques étaient infectées. Et un an plus tard, le taux est monté à 20%.
Et de quelle façon elle infecte l'humain, l'être humain, l'homme?
Ah, vous allez voir ça si elle est rusée. Contrairement aux moustiques qui piquent en moins d'une minute, elle prend son temps. Elle s'accroche à son hôte pendant 3 à 5 jours pour prendre sa pitance. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle mord la peau, elle crée une ouverture, elle y enfonce son rostre, et pour rendre son hôte insensible à sa morsure, elle utilise même un anesthésiant. Une fois son rostre entré dans la peau jusqu'au derme, elle injecte une enzyme digestive qui va décomposer le tissu du derme et elle aspire le tout. Puis l'opération se répète, elle agrandit la poche ainsi creusée sous la peau. Elle finit par atteindre un petit vaisseau sanguin et y aspire le sang. Ce processus peut durer plusieurs jours. Notez bien cette information. Si une tique est découverte et enlevée 24 heures après qu'elle se soit accrochée à sa proie, il y a très peu de risques qu'elle ait eu le temps d'infecter son hôte avec la bactérie Borrelia. Heureusement pour nous, la bactérie est très sensible aux antibiotiques. Si le patient est pris en charge tôt, il est facile de l'éliminer.
Oui, c'est vrai pour le moment.
Oui, c'est vrai pour le moment.
Puis, quels sont les symptômes qu'on ressent de cette maladie-là?
Alors, il y a 3 stades à la maladie. D'abord, il faut savoir que la maladie de Lyme montre des symptômes de type auto-immunitaire, donc qui se déclinent en 3 temps, comme pour la syphilis.
Ah bon?
Oui. Alors, 2-3 jours à 1 mois après la morsure, on note l'apparition d'une rougeur cutanée autour de la morsure dans environ 80% des cas. Cette rougeur s'appelle un érythème migrant et elle peut prendre, là j'ai vu une photo, la forme d'une cible. C'est une réaction du système immunitaire à la progression de la bactérie. On peut aussi noter un mal de tête, de la fièvre, de la fatigue et des douleurs articulaires. Après, les symptômes se dissipent. À ce stade, la maladie est souvent non diagnostiquée. Le stade secondaire, la maladie n'a pas été traitée, des symptômes réapparaissent quelques mois, quelques semaines, voire des années après la morsure. Le symptôme le plus courant en est l'arthrite. On peut aussi retrouver de la fatigue chronique, des maux de tête, un état dépressif ou une paralysie faciale.
Oh, c'est inquiétant ça.
Oui, mais les symptômes finissent par s'atténuer. Le stade tertiaire, certains patients non traités ou insuffisamment traités voient apparaître donc les mêmes symptômes qu'au stade secondaire. L'arthrite peut donc réapparaître, durer plus longtemps et être très sévère. Des complications cardiaques sont alors fréquentes et peuvent même s'avérer mortelles.
J'imagine qu'il y aura certaines précautions qu'on peut prendre.
Mais oui, absolument. Tout à l'heure, je vous disais, notez bien que si on l'identifie dans les 24 heures, il y a peu de chances qu'on soit infecté.
Ah oui.
Alors d'abord, elles sont vestimentaires. Elles se retrouvent, donc les tiques se retrouvent dans les sous-bois, donc recommandé de porter pantalon long, manche longue, vermifuge, insectifuge. Les vêtements de couleur très claire, évidemment, sont recommandés. De retour à la maison, prenez une douche, assurez-vous qu'une tique ne s'est pas installée sur la peau. Évidemment, si c'est le cas, la retirez avec une pince à sourcils ou une tire-pique. Tire-tique, pardon. Donc, en 2013, on a diagnostiqué la maladie de Lyme chez environ 140 Québécois. Et la moitié l'avait contractée au Québec, l'autre en Nouvelle-Angleterre. Dans les premières 24 heures, donc, je vous le disais, peu de risques d'être infecté. Dans beaucoup de pays, ces précautions sont devenues courantes. Mais dans les régions du Québec ou du Canada où la maladie est en train de devenir endémique, il faudra que cela devienne une habitude également. Elle doit être prise au sérieux parce qu'elle est en train d'émerger et elle est encore considérée comme une maladie rare, mais elle peut avoir quand même des complications notables puisqu'on peut même arriver au décès. À cause des symptômes qui varient beaucoup, il n'est pas toujours facile de la diagnostiquer. Sachez qu'en 2050, la très grande majorité de la population du Québec vivra près d'endroits où la souris à pattes blanches et la tique à pattes noires, la bactérie Borrelia, se seront installées à demeure. Par contre, souvenez-vous, elle est facile à traiter avec des antibiotiques, mais il faut l'identifier. Alors voilà, c'était un article extrait de ICI Radio-Canada sur Internet.
Amsterdam, qui s'est chargé du glaçage. Et je reviens à Montréal, le corps tatoué de visage. Des anges dandis aux danses plumages ont mis en lumière mon passage. Le soleil inonde le terminal, le dub fait danser mes scandales en format original.
Merci à Jean-Sébastien et à Ariane Moffat. Vous ne saviez pas que vous aviez composé ensemble.
Elle était en studio, hein?
Oui. Qui, avec sa chanson sur Montréal, me permet de vous lire mon article qui parle du plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015. On fait un retour sur les objectifs qui étaient dans ce plan-là. Alors, le titre de l'article, c'est « Encore du chemin à parcourir ». C'est un article écrit par la collaboratrice Sophie Suraniti et paru le 25 avril dans Le Devoir. C'est un texte qui faisait partie d'un cahier spécial. Qu'en est-il de ce deuxième plan quinquennal qui arrive en fin de cycle? Réal Ménard, responsable du développement durable de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal depuis 2012, nous dévoile quelques résultats. Alors, regardons d'abord les objectifs qui ont bien fonctionné. Premier objectif, c'est récupérer 80 % des matières recyclables et organiques, des résidus domestiques dangereux, des résidus de construction, rénovation, démolition et des encombrants d'ici à 2019.
Alors, on nous parle d'objectifs qui ont été positifs.
Oui.
On en est où?
Alors, l'objectif, c'était de récupérer 80 % de ces matières-là. On a le chiffre atteint pour l'instant, c'est 60 %. Alors, soit sortir son bac ou son sac de plastique tel jour ou tel intervalle horaire se révèle être une pratique maintenant intégrée par les Montréalais, à environ 60 % comme je viens de le dire. La prochaine étape va porter sur la gestion des matières résiduelles, à savoir le compostage, la biométhanisation et les bacs bruns, qui se situent quant à elles autour de 13 % Pour 2015, le gouvernement du Québec avait demandé à la Ville de Montréal de parvenir à un taux de récupération des matières organiques, c'est-à-dire les résidus de table, les résidus verts, de 75 %. Cet objectif, jugé irréaliste, a été reporté à 2020. Toutefois, la Ville de Montréal est parvenue à identifier les 5 grandes infrastructures, 2 sites de compostage, 2 sites de biométhanisation et 1 site de traitement qui lui permettront d'atteindre cet ambitieux chiffre. Un deuxième objectif, c'était de réduire de 15 % la production d'eau potable d'ici à 2015 par rapport à l'an 2000.
Ça a été atteint?
Le chiffre atteint, 13 %.
Oui.
Alors, on est vraiment tout près.
On approche, oui.
Alors, selon Réal Ménard, le rapport à l'eau des Montréalais a déjà beaucoup changé et la ville est apparemment la première à se plier à ces pratiques beaucoup plus économes. L'adage selon lequel chaque jour les fuites d'eau peuvent remplir la place Ville-Marie reflèterait-il une époque bel et bien révolue? En tout cas, les millions de dollars investis pour la réfection des infrastructures, plus de 66 kilomètres d'aqueducs ont été renouvelés. La chasse au gaspillage et les campagnes de sensibilisation pour économiser l'eau, comme les patrouilles bleues dans les arrondissements, semblent avoir porté leurs fruits. Un troisième objectif, c'était d'améliorer les infrastructures vertes à Montréal en faisant passer la canopée de 20 à 25 d'ici à 2025 par rapport à 2007, avec entre autres un objectif de protection de 6 % du territoire terrestre. Le chiffre atteint? 5,76 %.
J'ai une question là, peut-être bête.
Oui.
Qu'est-ce que c'est la canopée?
La canopée, oui, j'ai eu à chercher ça. La canopée,
bon, merci beaucoup.
c'est l'équivalent du dessus des arbres.
Oui.
Alors, avoir un objectif de canopée, c'est d'augmenter le nombre d'arbres sur l'île de Montréal.
Merci.
Alors, la proportion de 6 % qui avait été visée pour la protection du territoire terrestre devrait être dépassée après la reconnaissance en cours par l'Assemblée nationale de 2 paysages urbanisés, dont celui de l'île Bizarre en région montréalaise. Enfin, pour finir sur un succès bien feuillu et oxygénéré, le projet de la Ville de Montréal consistant à planter 300 000 arbres d'ici à 2025, le fameux plan d'action Canopée, devrait aboutir grâce au bouclage du financement. De 20 000 à 25 000 arbres devraient être plantés dans le cadre du partenariat de la Ville de Montréal avec la Société de verdissement du Montréal métropolitain qui a été créée pour ce faire. Les objectifs sont clairs, les différents partenaires sont mobilisés et le règlement sur l'Agril Dufresne est prêt à être rendu public. L'idée de planter des arbres fonctionne plutôt bien.
Oui, parce qu'on a déjà parlé de la grille du frêne, hein, qui est en train de
dévaster
oui. Littéralement.
Il faut vraiment s'en occuper.
Yvan, là, pour le moment, on a tout plein d'objectifs qui ont été presque remplis, mais est-ce que ça va continuer comme ça, toujours aussi beau?
Bien, le titre de l'article, c'était « Encore du chemin à parcourir », alors il y a des morceaux qui demandent plus d'attention.
Des objectifs moins bien atteints.
Par exemple, l'objectif de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise d'ici à 2020 par rapport à 1990. Le chiffre atteint, c'est moins 6 % pour la collective montréalaise. Donc, au lieu d'aller vers l'objectif,
on aggrave la situation.
Alors, sans surprise, les émissions de gaz à effet de serre restent le point rouge. Selon M. Ménard, s'il s'agissait uniquement du périmètre de la Ville de Montréal, les objectifs auraient été sans doute atteints, mais pas au niveau de la collectivité montréalaise. Depuis 2004, 63 000 véhicules se sont ajoutés au parc automobile existant. Et même si de nombreux efforts ont été déployés pour améliorer et développer le transport collectif, il reste d'importantes disparités selon les zones. Un autre objectif, c'était de réduire de 25 % le solde migratoire entre Montréal et la banlieue d'ici à 2012, en s'adressant principalement aux Montréalais de 25 à 44 ans qui quittent la ville chaque année.
Le chiffre atteint
15 %. Alors, bien que les chiffres définitifs pour 2014 ne soient pas encore connus Et malgré le léger surplus issu de l'immigration internationale, l'objectif de réduction du solde migratoire en lien avec le plan d'action famille n'a pas atteint ses 25 %. Les derniers résultats indiquent que le solde migratoire vers la banlieue a diminué de 15 %, passant environ de 24 000 habitants en 2006-07 à 20 000 habitants en 2010-11. Le solde migratoire, là, c'est les gens qui partent de Montréal pour aller à l'extérieur versus les gens de l'extérieur qui viennent à Montréal.
OK, d'accord.
Alors, la prochaine stratégie qui couvrira la période de 2016-2021 sera présentée en janvier 2016. Il ne faut pas s'attendre à une révolution majeure en ce qui concerne les grandes orientations du plan, mais plutôt à une continuité dans le programme d'intention et d'action avec, ici et là, quelques simplifications apportées notamment à certains objectifs. Les éléments forts relatifs aux questions de transport, d'adaptation au changement climatique et de foresterie urbaine demeureront. Toutefois, l'électrification des transports en commun et la façon de se comporter devant cette nouvelle donne devraient faire son entrée. Alors, c'était des extraits d'un article sur le plan de développement durable de la collectivité montréalaise de 2010-2015, Encore du chemin à parcourir, écrit par Sophie Suraniti dans Le Devoir.
Passionnant.
Est-ce que vous connaissez la flavescence dorée?
Pas du tout.
C'est pas une maladie. Hein? Ben, c'est-à-dire que c'est pas une maladie qui s'attaque. Oui. Flavescence, ça, c'est une drôle de consonance. Ben, c'est peu connu du grand public, mais la flavescence dorée qui sévit principalement en France, mais dans le nord de l'Italie aussi, c'est considéré comme l'une des plus graves maladies de la vigne. Au même titre que le phylloxéra à la fin du 19e siècle.
Ça, c'est grave.
Ah oui, ben, je comprends. Ça a failli détruire l'ensemble du vignoble européen à l'époque. Oui. Hein. Alors, l'agent responsable de la maladie, c'est une bactérie qui se loge dans la partie intérieure de l'écorce, un peu comme la maladie de Lyme, là. L'écorce des cèpes et qui s'y multiplie. Et la bactérie contre laquelle il n'existe aucune méthode de lutte à l'heure actuelle. Donc c'est sérieux, hein?
Oui.
Et beaucoup de sites qui sont touchés, par le Languedoc-Roussillon, par exemple. Et depuis, la maladie s'est répandue en Bourgogne, dans la vallée du Rhône. Mais on nous dit qu'elle reste contrôlée jusqu'à maintenant. Mais c'est inquiétant, hein, quand même.
Les Bordelais sont épargnés, alors.
Ah oui.
Faudrait faire des réserves.
La flavescence dorée.
Écoutez, Kiosque Magazine.
Alors, je vous parle de Punta Arenas. C'est tiré d'un article de la presse du 28 février par Marie Tison. Et si je vous en parle, c'est parce que j'y étais il n'y a pas si longtemps.
Chanceux.
La plupart des endroits dont les articles dont je vous parle, c'est des endroits où j'ai été. C'est très particulier.
C'est pas le budget de l'émission qui nous envoie là-bas.
Punta Arenas, on est dans l'extrême sud. Hein. C'est relié à ça. Vous avez Détroit de Magellan, Canal Beagle, Cap Horn, qui est connu davantage. Donc, c'est tout au sud du Chili. Et ça constitue le point de départ des grands treks de Patagonie, croisières en Antarctique, hein, qui vont dans ce coin-là. C'est une petite ville qui a 130 000 habitants et qui avait autrefois peu à offrir, mais que ça a beaucoup changé au cours des dernières années. Elle mérite qu'on s'y attarde un peu. Il y a une toute nouvelle promenade maintenant pour les piétons, qui est doublée d'une piste cyclable. Ça ferait ton affaire.
Et ça
borde le détroit de Magellan, qui est un passage d'un océan à l'autre, hein, détroit de Magellan.
Redoutable, il paraît.
Si le temps est clair, de loin, on peut voir la Terre de Feu.
Ah, j'ai une question, Michel.
Oui.
Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça s'appelle la Terre de Feu?
Oui, c'est étonnant parce que beaucoup de gens pourraient penser qu'on est dans le sud, donc c'est parce qu'il fait très chaud. Non, c'est que lorsque Magellan a découvert cet endroit, il y avait les Indiens qui étaient établis à cet endroit-là, à ce moment-là.
Oui, oui.
Et les Indiens, pour se réchauffer...
ils faisaient des feux.
Ils faisaient des feux.
Merci beaucoup.
Donc, il a dit « Tierra de Fuego ».
Merci.
Donc, c'est la Terre de Feu. comme un peu partout en Amérique du Sud, vous avez la Plaza de Armas, la place d'armes. C'est, ouais. c'est vraiment le cœur de la ville. C'est un très joli endroit, très animé. On y trouve des grands cyprès, plein de boutiques aussi, avec des souvenirs. Beaucoup d'artisanat local à cet endroit-là. Et un grand monument à la gloire de Magellan. Et le grand navigateur est flanqué de statues d'Autochtones. Et le pied de l'un d'eux, je peux vous le dire, il pendouille. Et le fait de l'embrasser serait un gage de bonne fortune.
Est-ce qu'on sait pourquoi?
C'est la bonne fortune. Non, c'est un mythe, tout simplement. Hein? Et le pied est très, très, très reluisant par rapport à l'ensemble du monument. C'est assez curieux. Et il est assez amusant, d'ailleurs, d'observer des touristes qui s'approchent et qui regardent alentour et mine de rien, regardent à droite, à gauche et tout à coup embrassent le fameux pied qui est en espérant que personne ne les a vus. Bon, ce qui est mon cas. Il y a une église et de belles demeures du 19e siècle qui entourent la place aussi. C'est une petite marche vers l'ouest, ça permet de gravir une colline et d'accéder à un observatoire qui offre une très jolie vue sur la ville. Il y a peu d'édifices en hauteur à Punta Arenas et ils sont essentiellement des hôtels. Mais les maisons sont souvent petites, recouvertes de tôle, mais heureusement, les habitants aiment les couleurs vives et ils ont ainsi amélioré l'aspect de leur demeure, qui est quand même assez joli.
Michel?
Oui?
Je t'interromps. Tu nous as parlé tantôt de... On est dans le sud, mais tu nous as parlé d'Antarctique. Oui. Alors, moi, je m'habille comment pour aller faire mon vélo, là, comme tu l'as
dit tantôt? Oui, exactement. Bien, en fait, lorsqu'on parle du sud, les gens ont tendance à penser que c'est la chaleur. Il ne faut pas oublier d'abord que les saisons sont inversées. Lorsque j'y étais en janvier, on est en plein été. Mm-hmm. Et lorsque j'y étais, les températures étaient d'autour de 6 degrés.
Oh là là, c'est plus frais que ce matin.
C'est pas
ça.
Nécessairement le temps de se baigner, même s'il y a des gens qui le font, mais c'est pas l'idéal. Mm-hmm. Les températures sont assez stables. En hiver, ça va être moins 3, moins 4, moins 5. Donc, c'est pas des températures très froides.
Donc, pas d'excès ni d'un côté ni de l'autre.
Non, c'est ça. Mais lorsque j'y étais, si on voit des photos, je suis en mitouflé. Il y a un endroit qui s'appelle le Musée Salésien. Le premier étage réunit un nombre vraiment impressionnant d'animaux qui sont empaillés. Et c'est représentatif de la faune de Patagonie. Mais malheureusement, l'empailleur, le monsieur qui a travaillé, n'était pas très doué. Et ses œuvres ne rendent pas nécessairement justice aux bêtes de chair qu'on y trouve. Deuxième étage est consacré à l'histoire des missions religieuses en Patagonie, qui a été très, très, très important, les missionnaires dans ce coin-là. On y trouve notamment de précieux artefacts autochtones. Et intéressant aussi de faire le parallèle entre les missions religieuses en Amérique du Sud et celles en Amérique du Nord. Il y a vraiment un parallèle à faire entre les deux. En 1916, le grand explorateur Ernest Shackleton, que tout le monde connaît, bien sûr. Il a essayé d'avancer des fonds à Punta Arenas pour affréter un navire afin d'aller chercher l'équipage de 22 hommes qui avaient dû abandonner dans l'île de l'Éléphant, qui est en Antarctique. Il aurait rencontré ses bienfaiteurs potentiels au bar qui porte maintenant son nom. Bar Shackleton. Mais il y en a qui estiment toutefois que les réunions auraient eu lieu dans un autre endroit, un autre bar, qui s'appelle la Taberna. Alors, la meilleure chose pour être certain de fouler les pas de Shackleton, c'est d'aller dans des bars.
On les essaye toutes.
Mais oui.
On est sûr.
Le gouvernement chilien a finalement mis un remorqueur qui s'appelle le Yelcho à la disposition de Shackleton pour sauver l'équipage. Et le capitaine du Yelcho est devenu un héros au Chili. Et le sauvetage est célébré au musée naval et maritime. Et au deuxième étage du bâtiment se trouve une reconstitution d'un pont de navire avec ses instruments de navigation et de communication et même un scaphandre. Donc, un musée intéressant à voir. Il y a un autre musée qui s'appelle Nao Victoria. C'est un excentrique qui a engagé des charpentiers maritimes et qui a entrepris de construire une réplique grandeur nature du Nao Victoria, qui était le navire de Magellan lors de son périple en 1519. On peut visiter l'intérieur de la réplique. Et le propriétaire a entrepris de construire également une réplique du Beagle. Ça vous dit quelque chose, le Beagle? Non? Ah, c'est le navire de Darwin. Le navire de Darwin qui lorsqu'il a été... Manger le Galapagos.
Je pense que je vais aller faire une petite pause.
Il va un mois se regarder.
Et vous avez un autre, la bananière d'Ernest Shackleton aussi, qui a utilisé pour quitter l'île de l'éléphant. Donc, vous avez des musées intéressants, mais bien sûr qui se réfèrent toujours à la mer, tout ce qui est autour de la mer. Et il y a des gens de toute origine qui ont bâti Punta Arenas, des Espagnols, des Britanniques, des Scandinaves et surtout, étonnamment, des Croates qui ont été chassés de chez eux par la Première Guerre mondiale. Alors, les descendants de ceux-ci forment maintenant une grande partie de la population. Et vous avez un très joli cimetière municipal. Étonnamment, j'aime visiter des cimetières. Je trouve que ça révèle plein de choses. Vous avez des immenses mausolées et des tombes minuscules aussi pour représenter la société telle qu'elle est. Donc, c'était Punta Arenas, mais Punta Arenas au Chili, parce qu'il y a un Punta Arenas qui est au Costa Rica. Et c'était tiré de la presse, 28 février, par Marie Tison.
Eh bien, moi, je vais vous parler de l'itinéraire. Vous connaissez l'itinéraire, hein?
Oui.
Alors, c'est un article qui était paru dans la presse du 28 avril 2014, intitulé exactement « Un itinéraire vendu par des enfants » et écrit par Annabelle Cossette-Civitella. Bon, tout le monde connaît l'itinéraire vendu par les sans-abri à Montréal qui sont en réinsertion sociale. Mm-hmm. Alors, savez-vous que la capitale de la Bolivie s'appelle Sucre? Je ne savais pas, Michel savait sans doute.
Oui, j'ai été
Sucre,
très
pardon.
Malade à Sucre. D'ailleurs.
D'accord. Alors ça, c'est le pays le plus pauvre de l'Amérique du Sud. Et là-bas, notre itinéraire s'appelle INTI. Et sa vente, elle ne sert pas à la réinsertion sociale des sans-abri, mais par contre, elle rapporte un petit peu d'argent aux enfants qui travaillent dans la rue.
Oh.
C'est incroyable.
Oui.
Alors l'article relate un petit peu le mode de vie d'un petit garçon qui s'appelle José Luis González Mamani, qui a 13 ans. Alors donc, ce qu'il fait, il passe de table en table, il aborde les vacanciers dans un anglais un peu cassé, il leur demande très poliment de quel pays ils viennent, et sans hésitation, il cite la capitale de leur pays et le système politique qui est en place. La technique est efficace, puisque à force de persuasion, il réussit à vendre des exemplaires d'INTI, ce magazine qui est anglais-espagnol de 16 pages, et qui lui permet d'arrondir ses fins de mois. Il le vend 3 pesos boliviens. Ça veut dire à peu près 50 sous canadiens.
Okay.
La moitié de la somme lui revient et le reste va à l'impression du magazine. Le petit José Luis a un horaire quotidien chargé parce qu'en matinée, il va à l'école et en après-midi, il travaille dans un garage où il aide le mécanicien à de petites tâches. Le reste du temps, il vend la revue INTI. Pour lui et comme pour près de 1 million de jeunes boliviens, travailler, ça fait partie de l'ordre des choses. Ce qu'il dit textuellement, la revue m'aide un peu. Mon père n'est pas à la maison en ce moment. Il travaille à Cochabamba. C'est une ville qui est située à plus de 300 km de Sucre, soit environ 6h30 de voiture.
La question que je me pose, est-ce qu'il travaille de façon illégale ou est-ce que la législation bolivienne, est-ce qu'elle permet ce travail-là?
Ah, c'est toute une question, ça. Il faut savoir que la Bolivie, c'est le seul pays au monde, depuis juillet 2014, où les enfants de 10 ans peuvent travailler en toute légalité.
Oh là là!
Étonnant, ça.
Oui. À certaines conditions, quand même. Qu'ils travaillent à leur compte et que leur emploi ne nuise pas à leurs études.
Ah, mais c'est bien, ça, quand même.
Oui. À l'origine de cette nouvelle législation, c'est très étonnant, écoutez bien, ce sont les jeunes eux-mêmes qui sont membres de l'Union des enfants et des adolescents travailleurs de Bolivie qui ont milité pour officialiser leur travail.
Donc, il y a un syndicat?
Je ne sais pas, mais okay. C'est bien possible. C'est bien possible. Mais c'est quand même étonnant que des jeunes se soient mis ensemble pour obtenir des droits pareils.
Mais oui.
Alors, évidemment, il y a quand même des réactions. Il y a les pourfendeurs du travail des enfants qui disent que plutôt qu'instaurer une nouvelle loi, il faudrait mieux s'attaquer aux causes de l'extrême pauvreté et augmenter le salaire minimum des adultes. Pour d'autres, comme pour le président bolivien qui s'appelle Evo Morales Evo Morales, pardon. Les enfants doivent travailler pour développer leur conscience sociale.
Ah bon?
Philomena Winstanley, qui est d'origine anglaise et créatrice de la revue INTI, a lancé le magazine bilingue il y a 4 ans, après son arrivée en Bolivie. Selon elle, les enfants d'INTI proviennent généralement de familles monoparentales dont le père a disparu et dont la mère mendie dans la rue. Grâce aux dons qui sont faits à INTI par des particuliers ou des marchands, l'organisation réussit de plus à donner un coup de pouce et à divertir la vingtaine de jeunes qui vendent la revue. Elle paye aux enfants des visites chez le médecin ou elle engage un clown, par exemple, le temps d'un après-midi. L'article décrit les enfants comme « entrepreneurs avant l'âge » et nous présente quelques exemples. Entre autres, par exemple, donc sur la place publique, un jeune garçon appelé Abraham Kanchari nettoie et fait briller les souliers de cuir. Autour de lui, toute la faune d'un samedi après-midi s'active, des vendeurs de tout et de rien comme partout, n'est-ce pas, Michel?
Lorsque j'y ai été, tous les enfants étaient serreurs de souliers d'abord.
Ah, ils doivent avoir des chaussures brillantes, hein?
Ben, même si vous aviez des baskets, ils étaient alentour pour vous les serrer.
Ouais, c'est terrible, hein, quand même, ça, hein? Il y a aussi comme des artisans, des amuseurs publics qui se promènent à travers les nuées de pigeons pour courtiger de potentiels clients. Il y a quand même des gens qui se baladent, n'est-ce pas, Michel? Et qui font parfois cirer leurs chaussures. À 11 ans, Abraham a la fibre entrepreneuriale. Ce matin-là, il a déjà écoulé son inventaire de revues INTI à vendre et il se concentre sur son magasin, son commerce de cirage de chaussures. Les locaux payent 3 pesos. On a vu tout à l'heure que c'était à peu près 50 sous. Mm-hmm. Les étrangers payent sur une base volontaire, eux. La majorité des gens donnent 10, parfois 30 pesos. Il rigole en disant que les Allemands sont les plus généreux. Avec cet argent, il remplace son matériel de travail, il s'achète des vêtements, de la nourriture. Il a le teint basané, l'œil vif, ses mains tachées en permanence par la cire, et il affirme aller à l'école tous les après-midi. La créatrice d'INTI, quand même, qui est présente à l'entrevue, tempère un peu cet enthousiasme et dit qu'elle souhaiterait que les enfants n'aient pas à travailler. Parce qu'elle ne pense pas que emploi et école font bon ménage.
Non, je suis d'accord.
C'est ça. Elle ajoute, un enfant qui travaille le matin, qui va à l'école l'après-midi, va nécessairement être moins attentif en classe.
Oui, mais l'amélioration, c'est qu'ils vont à l'école. Auparavant, ils n'y allaient pas.
Voilà, ouais. C'est ça. Ça commence par là. Puis de toute façon, ils sont comme obligés, vu la situation économique du pays, de travailler. J'ai quand même envie de vous donner quelques chiffres vite fait. 42% des habitants de la Bolivie sont des enfants. 26% des Boliviens entre 5 et 13 ans travaillent. 10 font partie de la main-d'œuvre en Amérique latine. C'était un article de la presse du 25 avril 2015 d'Annabelle Cossette-Civitella.
Merci.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. soleil à l'horizon, profilé sur tous les buissons, nos silhouettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague, pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Alors, cette superbe chanson de Yves Montand nous amène à mon article et évidemment, je vais vous parler de bicyclette.
Ça change. Mais c'est toujours intéressant.
On s'en va en France cette fois-ci.
Ah oui?
À la Via Rhôna. Et j'appelle Rhôna, c'est R-H-O accent circonflexe N-A et non pas le nom
d'une publicité. Pas de publicité, s'il vous plaît.
Alors, Via Rhôna, la véloroute au fil du Rhône. La voie cyclable traverse tout un bouillon de culture, au propre comme au figuré. Alors, c'est un article qui est présenté le 25 avril 2015 par Diane Précourt sur un tronçon de la cycloroute Via Rhôna en Rhône-Alpes pour le journal Le Devoir. Des sentiers, des jardins, des vignobles, des montagnes, des villes, des villages, un lac ici, un fleuve là. C'est un festival de décors variés aux effluves changeants que propose Via Rhôna, cette route cyclable qui sillonnera à terme la France et la Suisse sur près de 700 kilomètres. Wow. Des rives du lac Léman aux plages de la Méditerranée. Plaisirs multiples assaisonnés de gastronomie, un mode de vie ici. Très sérieux l'art de la bonne chère, avec les yeux autant qu'avec le palais. Ne sommes-nous pas au pays de la chefferie des Paul Bocuse, Sophie Pic et autres chouchous mondiaux de la table?
Bon, Yvan, c'est bien beau de nous parler de tout ça, mais c'est une région de... Je la connais très, très bien, cette région-là, parce que c'est le berceau familial. C'est pas facile pour les cyclistes, quand même, hein?
Hormis quelques valeureux aficionados du deux-roues traditionnel, la joyeuse bande qui a parcouru ce parcours avait émis un léger soupir en voyant débarquer les vélos à assistance électrique qui leur étaient attribués pour quelques jours. Non pas que la bicyclette mue à l'huile de jambe et au souffle court soit à sous-estimer, loin de là.
C'est joli, hein?
Mais au cœur d'une géographie en dents de scie comme la région française Rhône-Alpes, un petit apport technique s'avère plus qu'appréciable de temps à autre.
Merci beaucoup.
Bienvenue.
Oui, parce que tout le monde n'est pas prêt pour le Tour de France quand même. Hein?
Ne serait-ce que pour pouvoir se payer le luxe de jouir du paysage qui passe par toute une palette de couleurs, de décors et d'odeurs.
Je confirme.
Est-ce que c'est récent, cette piste-là? Est-ce qu'elle existe depuis longtemps?
Eh, ça a été inauguré tout récemment, en 2014.
Ah.
La cycloroute Via Rhôna traverse tout un bouillon de culture au sens propre comme au sens figuré. Des sites muséaux et vestiges gallo-romains jusqu'aux installations ultramodernes, sans compter les randonnées vinicoles et les incursions urbaines. Le tout, bien sûr, superbement nourri et arrosé. Rouler à même les vignobles en longeant des rivières, des fleuves comme ils les appellent là-bas, en traversant des champs agricoles, des jardins, des vergers, en croisant des animaux de ferme ou en bourlinguant dans les rues, n'importe quand.
Oui.
Via Rhôna traverse toutes les scènes imaginables. Dans les villes et villages, on s'accordera quelques arrêts gastronomiques, j'ai failli dire astronomiques, et culturels.
Ils sont peut-être astronomiques.
Peut-être. Dans les campagnes, le bonheur est vraiment dans le pré. Le visiteur sur deux roues s'offrira alors des randonnées bucoliques. Et encore quelques arrêts gastronomiques. Il faut bien compenser la dépense d'énergie.
Excuse.
Lyon, par exemple. Je parle de la ville.
Oui.
L'une des villes-étapes de Via Rhôna possède l'art du mélange des styles. Un musée à ciel ouvert. de la gallo-romaine d'origine celtique, Lugdunum, si vous avez lu vos Astérix, à l'actuelle cité de Lyon, se chevauchent tout de même 2000 ans d'histoire, dont subsistent des théâtres qui accueillent notamment des festivals dans les ruines. Et du haut de la colline de Fourvière, une impressionnante vue sur la cité nous attend. Mais c'est dans les traboules, ces surprenants passages d'une rue à l'autre qui remplaçaient jadis les rues transversales, que se révèle le petit trésor d'architecture soigneusement dissimulé. Une cour intérieure, des galeries à l'italienne, un puits, des escaliers en vis. Puis, c'est aux Halles Paul Bocuse qu'on trouvera plusieurs produits du riche terroir de la région dans ce marché couvert regroupant une soixantaine de commerçants. Juste comme ça, là, des 400 fromages français, le quart provient de Rhône-Alpes. Une balade parmi les vignes de l'Ermitage maintenant. Voilà un coup de cœur qui fera pomper le cœur et fortiller de la jambe, tellement le parcours peut être pentu. Même les vendanges à flanc de montagne s'en trouvent ardues. Un des secrets du bon pinard, peut-être. Mais on oubliera vite ces petites raideurs une fois au sommet, avec le paysage comme récompense. Par exemple, quand le soleil commence un peu à bâiller, et la dégustation de l'élixir issu des vignes qui nous entourent. Une petite entreprise organise de telles excursions à vélo pour les touristes, vins et fromages locaux en prime, qu'un sommelier vous apportera dans un grand panier sur sa bicyclette. Oui, oui, lui aussi. Il en profitera pour vous expliquer la culture traditionnelle en coteaux avec la plantation sur échalas et les 7 terroirs de la colline de l'Ermitage. Alors, c'était un article écrit par la journaliste du Devoir, Diane Précourt, qui était l'invitée de Rhône-Alpes Tourisme et d'Air France, et qui est un article qui a été présenté le 25 avril dans le journal Le Devoir.
Merci. Alors, écoutez-moi, je vais vous parler d'une société en hypercroissance qui est même obligée de déménager tous les 2 mois. Ce sont 2 professeurs de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines qui ont inventé ce qu'ils appellent le LIFI. J'ai bien dit le LIFI.
Et non pas le Wi-Fi.
Exactement, non pas le Wi-Fi, mais par contre, c'est le Wi-Fi par la lumière.
Oh, oh, OK.
Et ils disent que ça va changer nos vies. Ils disent que donc, leur société est en hypercroissance puisqu'ils doivent déménager tous les 2 mois. Leur start-up a commencé en 2012, elle est 100% française, il faut bien que je fasse un peu de cocorico quand même. Et le LIFI, ça offre une vitesse 30 fois supérieure au Wi-Fi, une basse consommation, un atout santé. En effet, les ondes lumineuses ne traversent pas le corps, à l'inverse des ondes des téléphones portables et du Wi-Fi, résume un des fondateurs. Le LIFI, c'est idéal pour prendre le relais du Wi-Fi à l'école, à la maison ou dans le train. Et d'ici 18 mois, ils proposeront une lampe grand public. Mais ils disent bien que leur objectif, c'est de rester français. Alors, ce genre d'aventure est assez binaire. Ils veulent commercialiser, évidemment, leur projet. Ils disent qu'entrepreneur, ce n'est pas le même métier. Nous pouvons témoigner. Aujourd'hui, ce sont les Américains et les Allemands qui convertissent nos créations. Il manque une courroie de transmission. Pour eux, pour nous, ce sera multimillionnaire ou multifauché, résume-t-il.
D'accord.
Alors voilà, c'était ça, la petite brève dont je voulais vous faire part.
Alors, vous avez certainement connu l'allume-cigare ou l'allume-cigarette dans les voitures. Bien, vous savez que les véhicules de marque Hyundai, vendus en Corée du Sud particulièrement, le constructeur automobile a annoncé que cet accessoire, qui est apparu pour la première fois en 1925, alors cet accessoire serait dorénavant remplacé par un port USB dans l'ensemble de ces modèles. C'est une décision qui a été prise à la lumière de sondages qui a été menés auprès de sa clientèle.
Mm-hmm.
Donc, je crois qu'il y en a de moins en moins, de toute façon, et dans la plupart des marques récentes.
Alors, une autre idée limpide. C'est un étudiant néerlandais de 19 ans qui étudie en aéronautique et qui a imaginé un système de barrières flottantes disposées en V face au courant dans lesquelles se concentreraient les déchets. Et selon les ingénieurs, la formule serait 33 fois moins coûteuse que celle habituelle et 7900 fois plus efficace que les bateaux nettoyeurs. À peine 10 années suffiraient pour débarrasser le Pacifique de la moitié de ses déchets.
Oh là là,
c'est quand même extraordinaire, hein?
Bonne nouvelle.
Un gros avantage en termes de coût. Et
alors, ceci nous amène à la fin de l'émission. Merci de votre fidélité. Merci à André, merci à Yvan.
Merci à tout
particulier
le monde.
À Jean-Sébastien Laliberté, la mise en onde des choix musicaux. Alors, vous pouvez nous rejoindre Canal M, canalm.org. Écrivez-nous, donnez-nous des commentaires.
Oui, on veut savoir.
On
est en reprise, d'ailleurs, à 13h et à 21h. Alors, merci de votre fidélité. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.